48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Eh bien, nous voilà, bonjour à tous dans ce nouveau magazine. Donc le 13e, c'est une affaire qui roule, qui marche.
Qui roule bien.
Qui roule bien. Hein. Bonjour Romain Vidal, qu'on accueille de l'UDAF.
Bonjour.
Voilà, suivi de très près par Laurent Suau.
Bonjour.
Bonjour Laurent. Et puis une nouvelle invitée, Julia Lapozzo, qui sera là pour nous parler du projet de l'association La Boarte.
Bonjour.
Bonjour Julia. Donc nous allons tout de suite commencer avec Romain Vidal, un habitué de cette antenne. Et puis, j'ai complètement oublié de présenter Yaël, qui est avec nous, qui va faire un peu de modération et puis des questions pièges aussi.
Bonjour.
Bonjour Yaël. En plus,
bonjour,
il nous a
apporté
des chouchous, c'est super gentil de sa part. Voilà, cette émission donc, démarre avec un oubli. Essayer de se rattraper. Romain Vidal, donc, que nous accueillons aujourd'hui pour nous parler du relais assistante maternelle.
De Lozère.
De Lozère. Alors, qu'est-ce que c'est, Romain, ce relais assistante maternelle? D'abord, ça n'existait pas avant ce...
Non, c'est né en 2010. Donc, suite à un appel de candidature fait par la CCSS de la Lozère en branche famille, c'est-à-dire
CCSS,
la CAF.
CCSS, ouais, d'accord.
La Caisse commune de la sécurité sociale. Il avait été fait une demande pour un porteur et gestionnaire d'un relais assistant maternel de Lozère, quand on était un des derniers départements à ne pas en avoir. Donc l'UDAF, ayant œuvré quand même assez souvent dans le milieu de la petite enfance, a répondu à cette demande et a été retenue. Et en mai 2010, a accouché d'un joli relais assistant maternel de Lozère. Voilà. Qui est très typique, si on peut dire.
Atypique ou typique ?
Atypique. Atypique, comme la Lozère.
D'accord. Voilà. Alors ça consiste en quoi, en fait, ce relais ?
En fait, si on peut dire, le relais... L'assistante maternelle de Lozère, ce n'est pas du tout un lieu de garde, comme on pourrait croire. C'est un lieu qui est fait pour les parents, pour les assistantes maternelles et pour les enfants. C'est-à-dire que vous avez partout une assistante maternelle qui est à domicile et quelqu'un qui est très seul. Seul avec les
avec
enfants.
Avec 4, 5 enfants, enfin, suivant
voilà.
Le nombre.
C'est 3. Selon les étendants, 4, 5.
Bon, donc, faut pas que je balance qui...
oui,
les assistantes maternelles qui ont 5 gamins. J'ai des noms.
Donc, voilà. Donc, le but, c'est déjà d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui contacter. C'est-à-dire, pour tout ce qui est question juridique, si on ne se rend pas compte, même pour les parents, le fait d'avoir une assistante maternelle, on devient employeur. Ce n'est pas évident. Il va falloir signer un contrat,
faire être un salaire.
Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il est né un peu partout en France, des relais assistants maternels. C'est des regroupements, voilà, tout simplement.
D'accord, avec un conseiller juridique derrière
Non, alors avec l'animatrice, c'est en général une éducatrice de jeunes enfants.
D'accord, voilà. Bon, qui s'est spécialisée dans...
Oui, en fait, étant donné que là, c'était Madame Bovard, qui était donc une éducatrice de jeunes enfants, et qui, parce qu'on se rend pas compte du volet, de la difficulté du volet petite enfance. Et même au niveau juridique, c'est compliqué. Vous imaginez bien que pour accueillir un enfant, il y a certaines règles à retenir. Les rehausseurs de toilettes, les normes d'hygiène, enfin voilà. C'est un gros volet et qui est très très encadré par le service petite enfance du Conseil général.
La PMI.
Voilà, tout à fait.
D'accord,
qui a changé de nom, c'est
d'accord.
Plus la PMI.
D'accord.
Me demande pas, je ne retiens jamais l'autre.
Ouais, c'est ce qu'on appelait nous la PMI, on
voilà.
Continue d'appeler la PMI, mais
voilà.
C'est le service petite enfance.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce beau monde s'est réuni. Donc vous avez à la base la CCSS, le conseil général par le biais de la PMI.
Avec un médecin relais.
Oui, c'est surtout, ils ont fait un beau geste, ils ont mis à disposition leur éducatrice de jeunes enfants.
D'accord.
À un 0,40 ETP, c'est-à-dire quasiment un mi-temps, voilà, où elle est dédiée sur le RAM. Après, vous avez eu l'AMSA.
Le RAM, c'est le réseau d'assistantes maternelles.
Voilà. Le relais.
Relais.
Ouais.
Voilà.
Relais
parce que la RAM...
La RAM, non. Ça, ouais. C'est sur la barque, ça.
Voilà. Et ça rame un peu, là-bas.
Non. Ça rame. Ça a ramé au début, parce qu'il a fallu le mettre en place. Et oui, parce que c'est... Le problème, c'est que, voilà, on est le seul relais assistant maternel départemental de France. C'est un relais assistant maternel, on va prendre
Oui, c'est par ville, je pense.
Ouais, par ville ou par ou un par groupe quartier. De 4-5 D'accord. villes. Ben non, nous, c'est sur tout un département. Alors, il a fallu trouver comment on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on a dit, on va déjà mettre du relais central. Ce qui tombe bien, c'est que Mende, c'est la plus grosse ville de la Lozère, elle est au centre. Et après, on va aller auprès de ces assistantes maternelles isolées.
D'accord. Se déplacer, les rencontrer ou faire des réunions de formation et d'information.
Voilà. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est on prend notre petit véhicule, madame, enfin l'animatrice pardon, prend son véhicule et se rend dans les communautés de communes qui ont adhéré au relais assistant maternel. Parce que attention, c'est pas obligatoire. C'est une démarche totalement volontaire. Et c'est là où ça a été important, on a fait par communauté de communes. On ne pouvait pas faire par ville. Donc chaque communauté de communes qui a voulu adhérer a payé une adhésion en fonction
du nombre. Ils adhèrent à quoi ? À
au relais assistant maternel. Non. On est juste gestionnaire. Ils adhèrent au relais assistant maternel de Lozère.
Qui est quoi en fait ? Qui est une association ?
Non, qui est un service de l'UDAF.
D'accord.
Voilà. Et donc, suite à ça, les assistantes maternelles ont la possibilité de contacter directement l'animatrice. Et l'animatrice se rend une fois par mois auprès d'elle dans le cadre des haltes-jeux. Donc, c'est-à-dire, ça c'est important, c'est-à-dire que vous avez l'assistante maternelle qui peut venir avec les petits. Donc vous avez l'éducatrice de jeunes enfants de la PMI qu'on discutait, qui va s'occuper des enfants, d'où le rôle de socialisation. Parce que ces petits qui sont avec des assistantes maternelles, des fois ils sont tout seuls ou deux, donc là ils se retrouvent tous ensemble. Et sur le côté, vous avez l'animatrice qui va recevoir les parents pour toute question contrat de travail, les assistantes maternelles, où en est la législation, voilà. Et le but, il est là. Et surtout, avoir un œil avisé concernant la demande et le nombre de places qu'il y a, pour avoir une réalité des capacités d'accueil sur notre département.
D'accord. Et en fait, le RAM départemental lozérien, qui est assez atypique, par rapport aux autres RAM des autres villes de France, c'est quoi la différence ?
Ça va être juste sur... c'est qu'il est départemental, ça a demandé beaucoup plus de moyens, de possibilités, un gros déplacement. C'est-à-dire que si on était sur 5 villes, une fois par semaine, vous auriez l'animatrice qui se déplacerait. Là, étant donné qu'on est sur un département, c'est une fois par mois. Voilà, d'accord. Après, le service est le même.
Donc les gens, en fait... ceux que ça intéresse, en tout cas, soit en contact avec eux qu'une fois par mois.
Voilà.
C'est suffisant.
Et il faut que la communauté de communes où vous êtes ait souhaité adhérer.
D'accord.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 24 communautés de communes de la Lozère, il y en a 12 qui ont adhéré.
Ah oui, la moitié. Donc aujourd'hui, vous êtes à un mois d'intervention avec 12 communautés de
communes. 3 ans. 3 ans d'intervention.
Vous dites que ça fait des interventions tous les mois sur les mêmes publics. Donc là, ça veut dire que s'il y en avait 24, vous feriez quoi ? Ce serait une fois tous les deux mois ?
Non, après, c'est juste une histoire de... Ce serait toujours une fois par mois, mais on rajouterait...
D'accord,
par exemple, elle va une fois par mois à Saint-Chély, une fois par mois à Mende, une fois par mois... Voilà. Les principales communautés de communes ont adhéré. Il n'y a que le... En grosse, on va dire, il y a le Gévaudan. C'est un Marvejol qui n'a pas adhéré au relais assistant maternel.
Et pourquoi ?
Oui. Si, justement, je me posais la question. Si une assistante maternelle qui habite sur ce secteur-là, par exemple, veut des informations, comment elle peut faire ? Elle peut quand même se rapprocher de vous ? Il faut qu'elle sollicite sa communauté
de communes ? Très bonne question. Jusqu'à présent... Alors, vous l'avez bien trouvé. Hein. En fait, jusqu'à présent, oui, c'est ce qui se passait. Toute assistante maternelle du département... elle appelait le RAM, voilà, j'ai un souci et tout. Mais là, on a eu dernièrement un comité de pilotage, et ce qui est arrivé. Les communautés de communes qui adhèrent ont dit, attendez, on paye une adhésion, et certaines autres communautés de communes qui n'adhèrent pas, qui ne souhaitent pas adhérer, qui ne payent pas d'adhésion, finalement, on leur rend le même service, à part que vous ne vous déplacez pas. Donc il a été décidé, avec tous les partenaires, Conseil Général, MSA, voilà, tous les partenaires financeurs, nous-mêmes, à partir du 1er janvier... Seuls les assistantes maternelles étant dans une communauté de communes adhérant au relais assistant maternel
pourront en bénéficier.
D'un côté, ça paraît dur, mais c'est aussi plus juste parce qu'on connaît les enveloppes au niveau des communautés de communes qui s'amenuisent de plus en plus. Et ça a un coût quand même. C'est à peu près 150 euros par assistant maternel donc, pour l'adhésion. Donc, voilà.
Il y a combien d'assistantes maternelles aujourd'hui en Lozère ?
On a un peu plus de 350 assistantes maternelles.
Sur tout le département ?
Sur tout le département.
Donc ils reçoivent en moyenne 3 enfants.
Oui.
Donc ça fait quoi? Ça fait 1000 enfants concernés?
Non, parce que vous avez... ça va être... Il y a plus... ça va être en fonction...
Il y a combien de familles de concernés par rapport à ce projet RAM?
Mais finalement, vous calculez, il y a au jour d'aujourd'hui 33 000 familles. On est à peu près à 10 000 familles qui ont des enfants. Vous divisez, parce que bon, il y a quand même les crèches. Donc ça doit faire, je ne sais pas, 5 à 6 000 familles qui peuvent être concernées. Et surtout, le principal attrait, c'est ce qui avait été soulevé de la part des politiques, c'est d'arriver à redensifier certaines... Parce qu'on va parler, on est à Mende. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la crèche, vous avez 70 assistantes maternelles. Vous allez à Villefort, vous allez à Méroé, c'est pas pareil. Vous avez une assistante maternelle. Comme vous dites, elle a droit à 3 enfants. Et elle en a déjà 3. Vous avez une famille qui arrive. Comment je fais garder mon petit? Donc ça a été important, ça a été une mission qui a été demandée, le retour. Le retour et créer des vocations. Voilà. Parce qu'on est dans des domaines...
Alors ça, c'est fait en... Pardon. Ça s'est fait en 2010. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, 2012, le constat, c'est quoi? C'est que vous avez vraiment répondu à une demande, c'est nécessaire,
oui.
Vous avez développé des vocations?
Je pense, oui. Oui, la demande, ça c'est clair, hein, les assistantes maternelles. L'animatrice avait fait passer un questionnaire de satisfaction. Je dis même pas les résultats, parce que c'est digne...
Mais si, dites-les, justement.
Je sais pas, ça doit faire au moins... On est à 98% de taux de satisfaction. Voilà, je veux dire, c'était attendu. Vous voyez, là, on est au mois de décembre, étant donné que notre animatrice est partie et que la nouvelle arrive en janvier. Si vous appelez, vous aurez la chance de m'avoir.
Et cette nouvelle animatrice, Romain.
Romain.
Romaine.
Et voilà, vous voyez, aujourd'hui, il y avait normalement un rendez-vous sur Florac, une halte-jeu. Je me suis bien fait secouer par nos chères assistantes maternelles, alors qu'elles avaient été prévenues, mais bon, elles ont dit on ne sait jamais. Donc oui, il y a une forte attente. Les assistantes maternelles, ça leur permet de voir leurs collègues, de savoir un petit peu tout ce qui est en place. Parce que ce n'est pas évident. C'est un métier qui n'est pas évident. Mais après, la chose aussi qui est importante à savoir, c'est que ça a permis de développer des actions au niveau de notre département. C'est-à-dire que, par exemple, avec le Conseil général, il y a quelque chose de très intéressant qui va être fait, c'est qu'il va être mis en place un vrai contrat de travail pour les assistants maternels. On ne se rend pas compte, mais quand on est parent, quand on a un contrat de travail tout fait, qui vous calcule tout ce qui est envisageable...
C'est sûr.
C'est merveilleux.
Moi, à l'époque, avec mes 3 enfants, j'ai un peu d'expérience. J'avais monté une petite feuille de calcul sous Excel,
ouais,
qui se mettait à jour, etc. Ouais. Et que j'ai diffusé très, très largement, au moins une dizaine de familles. Parce qu'en fait, il n'y avait rien, que c'était très compliqué. Bon, ouais. Pas trop compliqué. Le truc, c'est qu'on a toujours l'impression de se tromper, de ne pas avoir les bons taux, de ne pas mettre à jour le truc et après de devoir des sous ou de repayer derrière. Donc ça, c'était une vraie... Une vraie situation un peu d'angoisse pour les parents, en tout cas, de faire ces démarches-là. Mais Laurent, peut-être parler...
Justement, j'ai une question. Il y a bien les chèques emploi-service qui existent.
Oui, oui, oui. Mais ça, c'est le mode de paiement, oui. C'est pas... Et puis, il va falloir que les parents acceptent qu'ils soient payés en chèque emploi-service.
Oui, mais comme ça limite toute la paperasse en amont.
Oui, ça peut être...
De salaire.
Tout à fait, mais...
Mais par contre, c'est un peu plus cher.
Oui, voilà. C'est comme
c'est-à-dire
tout.
Que si tu le... Voilà, c'est comme tout. Il y a un service derrière, donc... Il y a beaucoup de parents qui, comme moi par exemple, travaillent au sous-le-sous, tu vois, et qui, en bon gestionnaire de famille, tu vois, pour pouvoir partir au sport d'hiver, tout ça, ben, faisaient gaffe.
En bon pater familias.
Mais là, au moins, il n'y a pas de risque d'erreur.
Et donc, ouais,
d'éventuel rattrapage par la...
C'est vrai, c'est vrai. En même temps, je pense que ça, c'est quand même une donnée intéressante aussi, de savoir ce qu'on paye et où ça va, quoi. Tu vois, de...
Tout à fait. Et... Dernier point, et pas des moindres, ça a été le cas des différents conflits qui naissent entre ASMAT et parents. Et avoir un médiateur, une personne qui va venir au milieu, ça a pas mal plu, on va dire.
Alors vous pensez qu'il y a une amélioration de la façon dont les assistantes maternelles aujourd'hui gèrent ces enfants chez elles et dans les conditions d'accueil?
C'est quand même agréable, hein. Je pense que toutes ces personnes qui en bénéficient, je vous dis déjà, vous vous retrouvez. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut répondre. Vous avez la moindre question juridique.
Ouais, il y a un soutien moral,
voilà.
De toute
façon. C'est pas, rien que ça, déjà. Voilà. Et après, ça va être le côté, on va dire, ben voilà, je suis pas seul, on pense à moi. C'est pas grand-chose, mais quand vous êtes dans un petit coin, un peu isolé, qu'il a neigé, vous êtes content de vous dire non, ben, l'assistante maternelle va venir
oui,
avec son petit
cabine. Oui, puis le fait d'avoir un relais, de toute façon, oui. c'est toujours intéressant de oui. pouvoir échanger sur nos pratiques, sur quel que soit le métier, hein, ça c'est important.
Mais les rendez-vous sont toujours à date fixe.
Oui.
Et est-ce
oui.
qu'on peut avoir, voilà, en tant que parent, est-ce que vous avez un endroit où on peut retrouver toutes ces dates ou...
Elle est formidable, formidable.
Ah mais c'est pas pour rien.
La dernière fois, elle n'était pas là, c'était moins bien.
Ça manque.
On t'invitera oui. plus, Romain.
Oui, ben c'est facile, c'est sur notre site internet, www.udaf48.fr. Vous allez dans la rubrique RAM et vous avez tout ce qu'il vous faut. Plaquette, numéro de téléphone, voilà.
Des tarifs pour les communautés
de communes. C'est gratuit. Non, ben les communautés de communes, ils nous appelleront à nous directement.
D'accord.
Non, il y a des conventions en fait qui sont signées pour 3 ans et on va arriver à terme des conventions en novembre 2013. Voilà. D'accord. Et on a une nouvelle communauté qui va rentrer à partir de janvier, le Goulet-Mont-Lozère. Très voilà. bien. Ils sont très contents, on les a rencontrés. Voilà.
Une dernière question peut-être. Oui. Quand on est assistante maternelle, pour devenir assistante maternelle, parce que l'objectif, vous l'avez dit, c'est aussi de développer des initiatives locales et que des gens aussi se proposent. Qu'est-ce qu'il faut en fait
pour En fait, on va aller se renseigner tranquillement auprès de l'animatrice qui va vous réaiguiller vers le service de la petite enfance, ex-PMI, et qui vous expliqueront en fait les formations qu'il y a à suivre. C'est surtout un nombre d'heures. Et comme vous disiez tout à l'heure, le médecin qui va vérifier un peu... si vous pouvez recevoir dans vos locaux. Parce qu'on est dans un domaine qui évolue énormément, parce qu'on a de nouvelles choses comme la MAM, la maison des assistants maternels. Voilà. La petite enfance, ça coûte une crèche, on sait combien ça coûte, c'est exorbitant. Alors il faut arriver à trouver des moyens un peu pour... Et apparemment, cette MAM, on en a déjà 2 qui ont ouvert en Lozère, et ça a l'air d'être oui. quelque chose de bien.
Et puis sur des territoires éclatés, c'est pas forcément la solution de regrouper et de faire faire à des gamins une demi-heure de oui. bagnole le matin pour les amener et repartir au boulot. Des fois, l'accueil à domicile ou à proximité de chez soi, c'est aussi oui. une bonne solution.
Une bonne solution aussi.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Romain.
Mais de rien, c'est toujours un plaisir.
Voilà, on va continuer juste avant de passer à la coupure musicale avec un petit jeu. Comme on l'a fait depuis plusieurs fois déjà, on va vous faire gagner des places pour ce très beau spectacle Bushman, le dernier chasseur d'Éric Bouvron, qui aura lieu donc jeudi au Théâtre Municipal de Mende à 20h30. Donc quelques places sont à gagner. Bushman, c'est un très très beau travail qu'on a vu en Avignon il y a 2 ans, et qui est en fait un travail d'anthropologie qui raconte l'histoire de ce comédien qui est parti plusieurs mois dans le désert du Kalahari, voir les Bushman visiter, puis il est revenu avec un spectacle qui est à la fois truculent, drôle, mais aussi plein d'anecdotes et puis qui retrace vraiment la vie de ces personnages. Alors Yaël, c'est quoi ce petit jeu ?
La question du jour. Alors, quel est le prénom de la personne qui vient de parler de l'UDAF ?
Moi, je sais.
Si vous répondez bien...
Merci, Vidal. Voilà, donc vous pouvez nous appeler donc au 04 66 31 59 68, je répète, 04 66 31 59 68, pour gagner des places pour aller voir Éric Bouvron dans Bushman, le dernier chasseur.
Ou un repas avec Romain Vidal.
Across the ocean of a charcoal dark, free falling from the edge of a packet of 10 mil naltrexone pills. I guess I misplaced my taste for survival skills. Sat thinking about the ways of suicide and how lovely I would be. And then he was telling me that I love.
FM Le Mag.
Et nous voilà de retour donc sur ce magazine, 13e du nom, avec Laurent Suau. Bonjour Laurent, bonjour. Adjoint en charge des travaux à la ville de Mende, qui vient nous parler un petit peu de l'ensemble des travaux réalisés depuis quelques temps déjà. Alors au menu, peut-être le TUF, la zone du TUF, ce qu'on appelle la zone du TUF, vous pouvez nous en parler un peu plus ? Où ça se trouve déjà ?
Oui, le TUF, c'est la partie finale de la ville, si je peux m'exprimer ici. De l'autre côté, en rive gauche du Lot, au niveau du stade du complexe sportif Jean-Jacques Delmas. Donc, il y avait un terrain qui appartenait à la ville, qui fait un peu plus de 2 hectares, sur lequel il y avait eu des projets de l'ancienne municipalité, notamment d'essayer de réaliser un practice de golf. Et donc, Alain Bertrand, arrivant à la ville de Mende en tant que maire en 2008, a préféré suspendre ce projet et faire quelque chose qui soit plus nature et plus à l'usage de tous les Mendois et de tous les gens qui peuvent venir sur la ville, notamment les touristes, puisque on a à 500 mètres de là, toujours côté rive gauche, un camping important pour la ville. Donc. Et puis en rive droite, on a un village de vacances avec plusieurs centaines de touristes chaque été. Donc c'était important de faire quelque chose de naturel, quoi.
Alors, ce TUF, en fait, c'est aussi une espèce de liaison entre la rive droite et la rive gauche avec...
Exactement, en réalisant dans un premier temps la passerelle donc, qui est accessible.
Voilà, la fameuse passerelle. Hein.
Voilà, ça permet effectivement de donner des passerelles. Si j'en prends une, par exemple, les gens qui étaient au camping et qui voulaient aller accéder au Tivoli, ouais, qui voulaient aller accéder au complexe sportif, ils étaient obligés de prendre la voiture,
faire tout le
de
tour,
remonter hein. jusqu'à la Mende-Lozère pour redescendre... Sur le complexe Jean-Jacques Delmas, alors que maintenant, par la passerelle, ils peuvent y aller à pied.
Tout à fait. Donc, en plus, ça fait objet parking. Donc, sur cet espace, on va trouver quoi, en fait ?
Alors, l'espace, moi, je vais vous parler que de l'espace naturel. L'aménagement commercial est déjà réalisé, les parkings sont déjà réalisés. Sur l'espace nature, on va trouver plusieurs aménagements qui se complémentent les uns les autres et qui vont permettre d'étoffer l'offre pour les Mendois, comme je disais, et pour les touristes aussi. Donc... On y trouve un espace plutôt naturel qui est un
chemin, c'est ça ?
Oui, un cheminement donc qui permet effectivement de venir et de compléter toute la promenade du Lot, donc qui part ici de l'Adoration même au-dessus, qui descend jusqu'au complexe Jacques Delmas, et puis avec la passerelle qui permet de traverser, de faire le tour éventuellement en repassant par devant les commerces. On va trouver donc une piste de prévention routière. Ça, l'idée, on est allé la piquer ailleurs, hein, c'est pas très novateur. Moi, j'avais l'envie, oui,
ouais,
tout à fait. Ouais. J'avais l'envie, moi, de, que ce soit tout l'espace de cheminement qui soit piste de prévention routière. Pour diverses raisons, ce n'est pas une idée qui a été retenue. On a préféré dédier un espace unique, donc faire un jeu avec les panneaux, les ronds-points. Enfin, les gens pourront aller se rendre compte sur place. Et surtout, l'intérêt, il y a un intérêt pédagogique d'aller donc amener les jeunes enfants qui apprennent à faire du vélo sur un espace sécurisé, qui en même
alors,
temps
pour
peuvent
les parents,
prendre...
Voilà. Pour les parents, puis je pense aussi aux enseignants qui font tout ce qui fait, tous ceux qui font du cyclo, pourront aller sur cet espace pour faire le travail justement de prévention. Alors il y a aussi un organisme qui gère ça, c'est la Prévention Maïf, qui fait un travail là-dessus, hein, avec des vélos qui peuvent être prêtés. Et en allant sur cet espace avec les vélos, les remorques, on peut faire des ateliers comme ça de prévention routière.
Alors nous, sur la définition de la zone, on a travaillé avec la prévention routière, bien entendu, quoi, et donc c'est bien effectivement un espace qui sera dédié et à disposition de tout le public. Et comme c'est particulièrement sécurisé, on peut imaginer que des enfants, en même temps qui fassent du vélo sur cet espace-là, les parents, pendant ce temps, profitent de la zone qui est plus en dessous et qui est plus naturelle, qui est enherbée, qui peut servir d'espace de pique-nique ou de repos. Voilà, donc on est vraiment dans des bonnes conditions là, pour la famille.
D'accord. Alors, par contre, le fait d'avoir fait ce pont... cette passerelle, en fait, ça a aussi permis d'aménager un petit peu le lot, puisqu'on est dans l'obligation, je crois, de faire, d'agrandir un petit peu l'espace autour. Vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Oui, on est dans la complexité là, de la zone de prévention des risques d'inondation, du PPRI. Donc on est en zone rouge, donc normalement, on n'a pas le droit de construire ou de nuire. On n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit de nuire ou de limiter les écoulements des eaux. Et donc, effectivement, pour construire cette passerelle et qu'elle soit accessible, c'était l'intérêt aussi de l'opération, effectivement, que ça puisse être utile pour tout le monde, tous les publics. Donc, on a été obligé de remblayer d'un côté, parce que côté stade, on avait déjà un merlon qui avait été fait avant que les lois sur l'eau s'appliquent
une protection,
de manière plus rigoureuse pour protéger les stades. Le docteur Jean-Jacques Delmas a effectivement fait ériger un merlon. Et de l'autre côté, on est à un niveau beaucoup plus bas. Donc, on a négocié avec l'administration, la direction départementale des territoires, pour effectivement remblayer un petit peu en rive gauche, pour être du même niveau que côté complexe sportif. Mais on a compensé en créant une lentille en amont, c'est-à-dire en décaissant la berge de la rivière en amont pour créer une espèce de lentille et compenser un peu ce qu'on a apporté un peu plus à 100 mètres plus bas. Ouais. On l'a compensé par un décaissement en amont et on a créé effectivement une plage qui, on l'espère, sera prometteuse.
Ce sera Mont-de-Plage.
Mont-de-Plage.
Le fameux projet de notre collègue.
Mont-de-Plage, si on peut en dire un mot, c'est particulièrement intéressant et vertueux à plusieurs titres. Premièrement, parce que ça limitera si on arrive au bout de la démarche avec la zone de baignade, ça limitera des déplacements Mont-de-Saint-Enimy, parce que beaucoup de Mandois, pendant l'été, vont se baigner sur les berges du Tarn, à Saint-Enimy ou à Saint-Michel-du-Tarn.
Oui, quand il y a de l'eau.
Ouais, il y en a toujours un petit peu là-bas. Et puis pour les touristes. Je rappelle, on a un camping, un village de vacances, ils fréquentent la piscine, mais une zone baignade en rivière serait un plus. Alors ça, c'est pour le côté économique et touristique. Il y a un côté environnemental fort, là aussi, dans la démarche, dans le sens où si on crée une zone de baignade en aval d'une ville, ça veut dire qu'on a de l'eau
propre,
de bonne qualité en amont. Et donc, il faut tout faire pour que l'eau soit de bonne qualité en amont.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau soit de bonne qualité en amont ?
Éviter les rejets, principalement,
dans la rivière. Les rejets polluants directs.
Exactement.
Tout type déjà, de les gens qui jettent ou qui rejettent. Hein,
oui, et puis après, des problématiques de déversoir d'orage quand il y a des pluies importantes, où le réseau ne peut pas tout encaisser, donc il faut que ça évite que ça aille directement.
Donc on fait appel au civisme des gens aussi pour leur expliquer que ce qui se passera en amont, en aval, ça dépend aussi de leur comportement.
Ce
n'est pas seulement un problème de traitement de l'eau, hein. C'est aussi un traitement des rejets et de ce qu'on consomme. C'est ça, Romain ?
Tout à fait.
Donc si on ne peut pas arriver, parce que ça impose une grande série d'analyses sur plusieurs années, enfin, c'est très contraignant.
Oui, pour avoir le label baignade.
on aura toujours quand même la plage. Puisque la plage, elle est faite en bordure de rivière. Donc ça,
avec du sable fin, des cocotiers. Alors,
on a même le maire de Gruissan, donc Didier Codorniou, qui l'autre jour était de passage à Mende pour le Parlement de la mer, une opération portée au niveau de la région, qui a proposé de nous donner du sable de Gruissan. Donc on ira le chercher avec plaisir.
Ah oui, oui, c'est un super
c'est
beau
super
sable
idée,
blanc.
Ça. C'est super.
Si vous pouvez amener la chaleur aussi. Ouais. Très bien, ben, cette zone du TUF, alors il y a aussi un autre espace sur le TUF, c'est la partie chapiteau.
Oui, il y a un aménagement. Alors moi, on le vend souvent comme quelque chose qui va servir uniquement au cirque. C'est pas vrai. Ça va servir à, enfin, ça va servir effectivement pour accueillir les
pour
cirques.
Pour accueillir les gros chapiteaux.
Parce qu'avant, on les mettait sur les gros chapiteaux. On les mettait sur des parkings en goudron et on faisait à la masse des gros trous pour étayer.
Avec les pins, tout à fait.
Voilà. Donc c'était pas très. Après, il fallait réparer le goudron. Là, on aura un espace qui sera complètement dédié, mais pas qu'à ça. On pourra avoir des jeunes y faire du vélo dessus, jouer au foot, au baseball, à tout ce que vous voulez comme sport.
Donc, un espace en tanasse, en terre battue.
Oui, exactement. Ouais, ouais.
D'accord. Chemin de Croix.
Alors, Chemin de Croix, c'est une opération particulièrement vertueuse, puisque là, on est dans un domaine patrimonial, mais aussi environnemental. Et c'était pas un projet qui était forcément au départ intégré dans le programme du groupe Irrésistible Mende, donc le groupe majoritaire à la mairie, donc amené par Alain Bertram. Mais c'est un projet qui nous est apparu très rapidement comme nécessaire, voire indispensable pour le bon développement de la ville. Et on a voulu, on aurait pu faire quelque chose de j'allais dire, de basique.
Oui, en pétassage, béton, tout à fait.
Un pétassage avec du béton. Et non, au contraire, on l'a voulu particulièrement vertueux. Et donc, on est allé sur de la pierre sèche qui nous a conduit à faire de l'insertion aussi.
Oui, avec la clause d'insertion.
Exactement.
Qui a permis,
donc, voilà. En profiter pour faire un chantier modèle donc, avec de l'insertion. On a eu aussi un prof donc, qui est venu faire de la formation, lui, donc, pour bâtir en pierre sèche et calader en pierre sèche. C'est des techniques ancestrales et durables. Et donc, on a voulu le faire particulièrement vertueux. Ceux qui ont pu aller s'y promener, comme Yaël...
Ah, moi, j'adore. Que...
Alors, Yaël, un petit commentaire.
Ouais. Moi, je suis très fat, j'adore.
Alors, pourquoi ? Mais t'adores quoi ?
C'est super joli, C'est très très beau. Il faut y aller, il faut aller se promener, vous allez voir, c'est super.
Parce qu'en fait,
il y a un gros, gros travail de fait, voilà. Et c'est super.
Ça a été redessiné en partie pour permettre aux gens aussi d'y accéder, parce qu'il y avait des pentes très fortes à un certain moment, qui ont permis de faire des virages plus arrondis, d'avoir un pas...
Surtout ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est au-delà de la pierre sèche, c'est la protection du chemin en lui-même. Parce que c'est la grosse problématique de ce chemin, c'est le ravinement. Comme on est sur des pentes fortes, donc on a fait reprendre toutes les coupes d'eau, et les coupes d'eau comme ils les faisaient dans l'ancien temps, ouais. C'est-à-dire avec de la calade, donc des pierres calées, plantées, de champs, donc en travers des...
Pour faire une canalisation.
Exactement.
Au milieu du chemin.
Et pour dévier l'eau, pour la sortir du chemin. Parce
pour
que
éviter qu'elle prenne de la force
et
qu'elle embarque la terre et les cailloux,
que ça ravine. Voilà.
Mais il y a aussi eu un gros travail sur les stèles, sur les...
Exactement, oui. Donc, pour protéger au maximum les stèles, donc on a fait de la rénovation dessus, là où c'était utile. Mais aussi, on a coupé des arbres autour, parce que la forêt a gagné. Et donc, il y avait certains arbres qui menaçaient les stèles directement. Donc, on a quand même fait un très, très joli travail.
C'est vraiment très, très joli.
De rénovation. Alors, il y a une idée aussi donc, de le redonner au Mendois, mais il y a une idée qui est plus large là aussi, puisqu'il est en cours de création un GR, un chemin de grande randonnée, donc, qui partirait de Nasvinal et qui irait du côté d'Avignon, sur les chemins, sur les pas de.
Enfin,
du
voie
pape,
sacrée,
ouais. Ouais, sur la voie du pape Urbain V. Il faudra quelques années pour que ça se mette. Mais bon, c'est quand même l'idée d'avoir un tourisme, là aussi, durable.
Tourisme pédestre.
Ouais, pédestre, qui passe par Mende, qui laisse économiquement, puisqu'on voit bien sur le Saint-Jacques ou sur le Stevenson, les retombées économiques que ça procure sur de longues périodes, puisque souvent, ces chemins de grande randonnée, ils sont pratiqués de mars jusqu'à fin octobre. Donc, c'est intéressant pour toute l'économie. Et puis,
tout à fait.
Bon, ça fait parler de...
Alors, c'est vrai que ça nous permet de parler aussi du patrimoine sacré sur Mende, précisément, hein, puisqu'on a quand même la cathédrale, puis on a un fonds qui est très, très important d'œuvres. Et que, en fait, tout ça s'inscrit dans cette réflexion. C'est vrai que d'avoir fait un chemin de croix comme ça, de très belle facture, dans les règles de l'art, avec, en se souciant aussi de la des pérennisations de ce chemin et des monuments qui s'y trouvent. Ça fait partie d'une vision culturelle et aussi économique dont tu parlais, qui nous semble voilà, très, très intéressante.
Oui, et puis on est bien dans la continuité de ce qui a été porté par Alain Bertrand, avec la rénovation du pont Notre-Dame, la rénovation actuelle du pont Roux. Donc on est vraiment, le vieux pont Roux, c'est vraiment du patrimoine aussi, le pont Notre-Dame aussi,
ah, tout à fait,
c'est ouais. vraiment du patrimoine. Ouais. Donc le c'est chemin bon, de croix rentre bien classé, dans cette ouais. logique-là. Donc avec l'idée, ben, c'est toujours par derrière, ben, de préserver pour des siècles encore, et puis eh ben, de faire venir des gens de l'extérieur avant, de faire de l'économie aussi, quoi, parce que tout découle de...
Alors après, il se posera le problème, effectivement, de l'Ermitage, puisque le chemin de croix arrivant à l'Ermitage, c'est un lieu aussi dont il faudra se préoccuper, puisque ça fera partie, je pense, de cet ensemble.
Il y a des réflexions en cours. Pendant 20 ans, plus personne ne parlait de l'Ermitage, maintenant, il y a beaucoup de,
oui, mais
de
c'est
gens
vrai
qui que... commencent à s'en préoccuper.
C'est vrai que c'est un lieu qui est magnifique, exactement. Ne serait-ce que par le site, son positionnement, et puis l'accès aux causes. Voilà, c'est aussi une voie, c'est aussi un lieu qui peut être un lieu de pèlerinage, un lieu d'accueil.
Un lieu d'accueil aussi.
Un lieu de ressources. Voilà, il peut être étudié, c'est vrai, beaucoup de
choses. Alors jusqu'à ces derniers mois, et encore aujourd'hui d'ailleurs, l'accès est interdit, puisqu'on a des problématiques de falaise avec des pierres qui risquent de chuter. Donc nous, on a fait faire des travaux de sécurisation des falaises qui vont se poursuivre le printemps prochain. Donc tout ça part effectivement
d'un ensemble
pour retrouver les pèlerinages de l'époque. Enfin, je rappelle, moi, qu'il y a 100 ans de ça, il y avait 12 000 personnes qui montaient par an aux grottes de Saint-Privat.
Oui, c'est sûr que dans l'histoire de la Lozère,
il y en a un petit peu moins
aujourd'hui.
Ben, il faut dire qu'en 1789, il y avait quand même 173 000 personnes en Lozère. Hein. Donc quand on dit la Lozère, plus petit département de France, à l'époque, ça ne l'était pas. Hein. Il y avait quand même énormément de foyers en Lozère. Ce qu'on appelait les feux, hein, au Moyen-Âge, même après. Et que ben, ces gens-là, bien sûr, sont partis avec la guerre, avec les famines, avec...
La baie du Gévaudan.
Avec aussi une perte d'activité, notamment dans les Cévennes, dont on a parlé longtemps.
Hein. Les mines.
Et puis l'exploitation aussi des châtaigneraies. Mais on voit bien qu'en fait, tout ça, ça peut revenir. En tout cas, nous, on espère que sur la ville, ben, ce dynamisme... à la fois culturel, patrimonial, d'aménagement, d'infrastructure, comme on le voit avec le TUF, avec le chemin de croix, et puis aussi avec le Causse d'Auge, hein, la partie, donc la route nouvelle, parce que sur la ville, il s'est quand même fait déjà une route. Enfin, il y a beaucoup d'aménagements, des terrains à bâtir. On va attaquer, je crois, le troisième lotissement.
Tout à fait.
Vous pouvez nous en parler un peu plus?
Ben, en fait, pour pouvoir arriver à l'aménagement de toute du Causse du Roussel, qu'on appelle donc la partie haute de la ville, il fallait effectivement en passer par toute une série de travaux en amont, notamment par rapport aux eaux pluviales. Donc il a fallu repartir depuis le Lot pour remonter jusque dans ces zones, alors, pour agrandir le tuyau, tout simplement. Ça, c'était une grande partie du travail. Alors ça, on l'a fait en début de mandat, sur l'avenue du 8 mai.
Ouais,
et puis après, on a créé la voie nouvelle qu'on a appelée pendant le temps, qui s'appelle maintenant l'avenue Nelson Mandela, qui a permis aussi de faire le dernier lotissement des Litornes qui est en cours de finition avec 30 villas, qui permet maintenant à Clavel, à Monsieur Clavel, au frère Clavel, de porter un lotissement qui à terme aura 40 ou 45 maisons, et qui permet aussi d'aménager donc, ce qui est porté par la ville et par un partenariat avec Polygone 48, qui sera à terme 200 logements sur les hauts de la bergerie, donc qui est le nouveau quartier au-dessus de la bergerie. Mais tout ça, c'est relativement compliqué, financièrement, administrativement, parce qu'il y a la problématique de loi sur l'eau et d'urbanisme. Il a fallu en passer par le PLU, donc le plan local d'urbanisme.
Qui a remplacé l'ancien POS.
Exactement.
Plan d'occupation
donc, c'est des démarches qui sont relativement longues. financièrement, qui sont très onéreuses, et qui permettent l'avenir de la ville. En construisant la route du Causse, en mettant en dur la route du Causse d'Auge, la voie du Causse d'Auge, qui était un chemin, en la mettant en dur, on va permettre le développement de toute la ville.
Ouais.
Et en plus, on va offrir une facilité aux Mandois qui circulaient jusqu'alors sur l'ancienne 106, jusqu'au Cossodoge, qui est dangereuse plutôt comme route, quand même, notamment en période hivernale.
Il y a un raccrochage sur...
Il y a malheureusement eu beaucoup de morts sur cette route. Et donc, en passant par là, en le limitant aux véhicules de moins de 3,5 tonnes, c'est-à-dire que la route du Cossodoge sera interdite aux poids lourds, ça, il faut bien que les Mandois en aient conscience, eh bien, on facilite la vie des Mandois. En plus, on fait une voie qui est particulièrement généreuse, dans le sens où on la limite en largeur pour les véhicules, mais par contre, on fait un espace comme avenue...
Un espace piéton avec...
Un espace piéton et vélo,
et cyclo,
ouais, sur l'avenue Nelson Mandela. On sait que les Mandois s'y promènent beaucoup sur ce secteur. Donc, c'est très bon pour l'avenir de la ville. Oui.
De toute façon, la ville peut s'ouvrir sur cet aspect, sur cette partie-là, plus que de l'autre côté, puisqu'on est quand même assez limité avec...
Après, on peut l'ouvrir sur un secteur, par exemple, qui est prévu au PLU entre Chavannes et Chabry, quoi. Il y a un secteur d'urbanisation qui est très intéressant, qui a une vocation agricole jusqu'alors, mais agricole limitée, j'allais dire. C'est que du pâturage, du petit pâturage. Mais c'est vrai que l'avenir de la ville est sur le Causse du Roussel, c'est incontestable.
Alors en plus, il y a quand même un autre facteur intéressant qui a été réfléchi sur ces aménagements, c'est le réseau de chaleur qui intègre et qui a été mis en œuvre aussi en utilisant les ouvertures de ces voies pour enterrer les canalisations, pour desservir de nouveaux espaces et permettre ce raccordement au réseau de chaleur.
Tout à fait, oui. Et au réseau de chaleur, pour l'instant, on est à 50%
de sa capacité.
Donc on travaille encore. La semaine dernière, avec Monsieur le maire, là, on a reçu encore les gens de Dalkia. Donc on travaille encore à son développement. On va travailler justement dans les prochaines semaines et les prochains mois à l'aménagement du réseau dans les vieux quartiers. Moi, c'est mon dada, d'essayer de descendre le tuyau là, depuis la bergerie jusqu'à la vignette, pour desservir le maximum de maisons. Parce que c'est ces maisons-là qui en ont le plus besoin. Parce que souvent, c'est des grandes maisons qui sont mal isolées, avec du chauffage au fioul, et c'est là où on serait vertueux.
Qui consomment beaucoup. Ouais. Alors, parlez-nous-en peut-être un petit peu, comment on peut faire pour convaincre les gens de... Parce qu'on entend plein de choses sur le réseau de chaleur, c'est cher, il y a un abonnement. Est-ce que finalement, ça ne coûte pas plus cher que le fioul ou que le gaz?
Je dément formellement cela. Je considère que le réseau de chaleur est plutôt vertueux Alors, sur un plan environnemental, mais économiquement, c'est une solution qui est tout à fait acceptable.
En termes d'investissement aussi, puisqu'on n'a plus besoin de chaudière.
En termes d'investissement, bon, il y a tout un tas d'avantages. C'est que l'entretien nous échappe complètement.
Il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas le souci
de l'entretien. Dès qu'il y a quelque chose qui casse, Dalkia, qui est une entreprise très, très sérieuse,
intervient
sans délai. Enfin, c'est une bonne opportunité pour les Mandois qui peuvent s'y raccorder.
Et puis il y a aussi...
Si des personnes sont intéressées justement par ça, comment elles font comme démarche? Qu'est-ce qu'elles font comme démarche?
Alors, il faut qu'elles contactent directement Dalkia, soit par le biais de la mairie, soit en téléphonant à la mairie où on leur donnera les coordonnées de Dalkia. Et la société, effectivement, délégataire, qui est Tandem, oui, mais qui est à 95% une émanation de Dalkia.
D'accord.
Dalkia étant, elle aussi, une filiale de Veolia.
Exactement.
Très bien, ben tout ça c'est des bonnes informations. En tout cas, on fera le relais de toutes ces informations aussi parce que c'est important que nos concitoyens soient informés. Peut-être une dernière information concernant le parking, l'ancien parking Giral Peugeot, là, qui est au bord du Lot. On a entendu parler d'un projet d'aménagement, de parking, de...
Oui, donc on va réaménager. Alors ça va bouleverser un petit peu la vie des Mandois, hein, puisque en fait la gare routière qui était principalement sur le foirail va se déplacer sur cet espace, cet ancien garage Peugeot, l'espace Giral. Et donc ça va entraîner un réaménagement complet de cet espace.
Et des circulations aussi.
Des bus. Notamment des TUM, principalement. Après, bon, pour tout ce qui est scolaire, on sera toujours devant les écoles au maximum. Hein. Mais bon, l'idée, c'est de sortir les bus du foirail pour avoir, quand les gens passent sur le boulevard Bourillon, et qu'ils ont une vue sur le COS, la coulée verte qu'on appelle, qu'il l'est vraiment, quoi. Pas qu'il l'est
sur l'espace événement,
tronqué
à travers des vitres.
À travers les vitres d'un bus ou autre chose. Il y a souvent, effectivement, des bus.
Oui, puis de redonner peut-être à la place la une place fonction.
Va, ouais, exactement, va être complètement réaménagé, l'espace événement va être construit, un espace qui va être, franchement, moi qui travaille dessus, sans être, essayer d'être trop partisan, même si on l'est toujours un petit peu quand même, mais ça sera un magnifique espace.
Ah, qui démarre bientôt, puisque...
La démolition de Saint-Hilpide donc, est prévue pour mai-juin 2013, et le premier coup de pioche, j'allais dire, de lancement de l'espace événement, c'est pour le 1er septembre 2013.
Voilà, donc c'est demain. Hein.
C'est demain.
C'est très bien.
Et un joli projet qui servira les mains noires. Oui.
Très bien, bien merci beaucoup Laurent de toutes ces informations très précieuses.
Je ne vous ai pas parlé de l'aspect environnemental de l'espace Giral, et si vous me réinvitez, je vous en reparlerai. Parce qu'il y a un gros intérêt,
oui, notamment mais...
par rapport aux inondations.
Tout à fait, par rapport aux pépéries, tout ça. Mais de toute façon, on sera amené à se voir régulièrement sur les avancées de tout ça. Aussi, parler plus précisément de l'espace événement, parce que je pense que c'est... Il faut préparer aussi un petit peu nos concitoyens, que ça va bouleverser un petit peu aussi leur fonctionnement au quotidien pendant quelques temps,
oui.
Mais que c'est important, notamment pour l'accueil en ville, pour de nouveaux services, pour un nouveau fonctionnement, pour de l'événementiel et pour des services aussi aux associations. Donc on sera amené à se revoir régulièrement pour parler de tout ça.
Très bien, merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Une petite,
le
un
jeu
petit
d'abord.
Jeu,
le
un jeu. Petit jeu avec Yaël.
Le jeu. Alors, on va poser une question piège.
Comme la première.
Comme la première. Donc, j'espère que le standard va tenir. Mais quel est le loisir préféré de Laurent Suau?
Un indice, peut-être.
Parce qu'il en a plein de loisirs. Indice, il en a plein.
Bah, j'espère pour lui, ouais, qu'il a plein de loisirs.
Alors...
À la main, c'est plus sportif.
C'est plus sportif.
Ouais, mais ça, c'est pas un loisir, Laurent.
C'est tendancieux.
Sinon, voilà, à la meçon.
Voilà, sinon avec un hameçon. Voilà. J'ai eu peur. Une petite coupure musicale. À tout de suite. Alors, vous pouvez bien sûr, pour ce jeu, appeler le 04 66 31 59 68 pour gagner des places pour aller voir Bushman jeudi soir. Très, très beau spectacle.
For a long time.
48 FM Le Mag.
Et voilà, dernière intervention, celle de l'association Laboart qui nous propose pour la première fois, je crois. Hein. Donc, oui. Bonjour Julia.
Bonjour Nicolas.
Voilà, qui nous propose pour la première fois un café-théâtre. Alors, dites-nous en plus, Julia.
Donc, dans le cadre de M-Lire, donc, qui sera proposé du 5 au 8 décembre, l'association Laboart va proposer donc, son premier café-théâtre. Donc, dans une optique de diversifier en fait ses actions en dehors de 48e de rue, qui est donc un festival qui commence à être connu et reconnu. Donc, c'est fait donc à travers ce café-théâtre, l'événement rue du Livre aussi qui va être mis en place. Et c'est aussi dans une optique d'aider les associations partenaires, donc ici donc les amis de la bibliothèque, qui est l'association de la bibliothèque Lamartine. Voilà.
Donc en fait là c'est dans le cadre d'une semaine qui s'appelle Aime Lire,
voilà.
À l'initiative de la ville et aussi donc de la bibliothèque municipale d'Hélène Divoliès et puis des associations partenaires comme, dont tu as parlé, ouais. Qui organisent toute une semaine avec des spectacles qu'on peut retrouver sur le site de la ville de Mende. Et puis donc ça intervient quand en clôture en fait, c'est ça?
Voilà, ce sera le spectacle de clôture de Aime Lire. Et aussi de la journée, donc une journée qui se passera à l'Antirouille, ce sera un salon littéraire, avec la présence notamment de Annie Agopian, Claire Franek, Karim Ressouni et Delphine Ollier. Donc ce sera toute la journée à l'Antirouille à Mende.
D'accord, voilà. Du matin jusqu'au soir, voilà. Un petit apéritif avant de clôturer le tout. Voilà. Et le spectacle a lieu où alors?
Alors ce sera à l'Osmose, donc rue Basse. Ce sera proposé à 19h et le spectacle proposé sera donc Mago Mentalista par la compagnie des Catalogués. Donc c'est un spectacle de mentalisme. Donc Guido, un Italien, va vous proposer plein de numéros enchaînés de mentalisme. Donc le mentalisme, c'est la reproduction de phénomènes paranormaux.
Donc, et vous y croyez?
Qu'est-ce que c'est?
Je crois que Romain, je sais pas, Romain, tu y crois un petit peu aux ces phénomènes paranormaux?
Un peu, oui.
Tu suis la série The Mentalist?
Non.
Voilà, ben c'est ça en fait.
D'accord.
Mais en vachement plus drôle.
Et donc voilà, pendant une heure et quart, il va vous proposer des numéros donc, qui vont s'enchaîner, qui vont monter crescendo dans le paranormal, sans jamais tomber dans le mystique non plus, faut pas... Et donc voilà, c'est un spectacle humoristique qui, à mon avis, que vous soyez sceptique ou pas, vous
finirez pas y croire.
Voilà, vous allez au moins y réfléchir. Voilà.
Très bien, Mago Mentaliste.
Ça donne envie.
Ça donne envie. Hein.
En fait,
c'est un spectacle en fait, qui a été vu par cette association à Chalon dans la rue cet été. Voilà, un spectacle très fort parce que la particularité de ce spectacle, c'est que ce Diego, là, ce fameux Diego, cet Italien, là, en fait, a vraiment un don pour nous amener à croire, en tout cas à douter, même les plus sceptiques. Il est extrêmement fort. Hein, puisqu'on parle de divination, on parle de lecture de la pensée, on parle de voilà jusqu'où on peut par nos comportements en tout cas trahir nos pensées.
Tout ça à 10 jours du 21 décembre.
Tout ça à 10 jours du 21 et donc et en fait à la fin du spectacle on vous propose en fait une place sur le site de Bugarache. Si vous souhaitez, il y a un bus tout de suite au départ. Non, c'est une blague, hein. Ne venez pas au spectacle pour aller à Bugarache, on n'a pas de place à vous donner. Voilà, mais par contre, c'est un super spectacle et il va vraiment vous prendre la tête à la fin du spectacle. Bon, je ne vous raconte pas le spectacle, la fin est très drôle. Tout le spectacle est très drôle en fait, c'est pas du tout prise de tête, c'est vraiment, franchement de l'humour. C'est comment on peut manipuler les gens et comment on peut... par les facéties d'un très très bon comédien, très fin, comment on peut vous amener à faire croire des choses. Donc le pouvoir de la culture sur les masses, très important ça. Laurent, tu seras parmi nous peut-être pour ce spectacle.
Je vais au match, moi.
Ah, tu vas au match, ouais, d'accord. Non, sinon, le match, tu passeras après. Alors, l'intérêt de cette soirée, c'est que, bon, bien sûr, elle clôture une semaine de Aime Lire, c'est un événement autour du livre, hein, important. Ça fait plusieurs années que c'est organisé par la Bibliothèque municipale de Mende, avec les amis de la bibliothèque, avec la Ligue de l'enseignement. Donc, c'est quand même un événement qui s'inscrit dans la continuité de tout ce qui se fait sur l'année pour les enfants, le jeune public. Il y aura de superbes livres. Si vous voulez faire des cadeaux pour Noël, il y a aussi maisons d'édition Vinoux qui seront là, ouais, avec leur dernier album hein, qu'on a accueilli ici, qui est vraiment un très très beau travail. Donc pour les cadeaux de Noël, c'est génial. Et puis pour finir la soirée, Mago Mentaliste à 19h, un petit apéro offert là-bas. Et après, on peut même déjeuner sur place, puisque l'Osmose proposera donc un petit dîner mentaliste avec en entrée une feuille de chou pour se prendre la tête, quoi. Le chou.
Merci.
Voilà. Et d'autres informations ?
Ben, on peut juste dire quand même qu'on peut réserver nos places à l'Office du Tourisme. Donc les places sont à 5€ et vous pouvez vous rendre à l'Osmose dès 18h15.
D'accord, à l'entrée, vous verrez, il y a des panneaux, donc c'est rue droite.
Rue Basse.
Osmose quand même.
Voilà, Osmose, tout le monde connaît l'Osmose. Ce sera une soirée, on sera tous en fusion, en osmose. Magique. Magique, très belle soirée. Alors, dire aussi que c'est la première soirée délocalisée comme ça, donc qui ne se fait pas dans un lieu de spectacle vivant, classique, comme l'Espace des Anges ou le théâtre municipal, mais qui se fait vraiment avec un restaurateur, quelqu'un qui vit là toute l'année et qui nous prête sa salle. Donc, on le remercie parce que c'est très sympa de sa part. Alors, d'autres commerçants sur la ville, d'autres restaurateurs ont déjà fait ce travail-là. En général, ça amène du monde, tout le monde s'y retrouve. C'est aussi une façon de rendre dynamique la ville. Et si cette soirée, donc il n'y a que 80 places, je crois, sur le lieu, si cette soirée fonctionnait vraiment bien, je pense que l'association La Boîte serait prête à s'engager sur des rendez-vous comme ça durant l'année dans différents lieux de la ville, à la fois pour les faire découvrir et puis pour donner une autre approche, un autre accès à la culture. Voilà, toujours avec l'idée, bien sûr, de l'humour, parce qu'avec l'humour, on peut tout dire.
C'est une très belle initiative de l'association La Boîte et de son président, François Robin.
Tout à fait, qui n'est pas là parmi nous parce qu'il travaille. Voilà. Mais en tout cas, on lui donne bien le bonjour. Voilà, c'était la fin de ce magazine. Je remercie Richard. Romain, je remercie Laurent et puis Julia d'être venue. Et puis Yael qui est déjà partie parce qu'elle travaille aussi. Et on vous dit donc à jeudi pour une retransmission à 18h. Et sinon, à la semaine prochaine.